Tania, écoute, Amarim, nous sommes par même bête. Et je reprends Ve od zot yeter al ken. Dafnun tet amud alef ulin par le bas. Au début de ce père, Kadmour Azaken a rapporté un passou qui dit Vata Israël, ma Hashem Elokecha, Hashem Mimar, Kemiret, Hashem Elokecha, qu'est-ce qu'Hashem te demande? Uniquement de le craindre. La Gemara a demandé, est-ce que craindre Dieu, c'est une chose si petite? Et la Gemara a répondu, oui, pour Moshe, c'est pas grand-chose. La Gemara a demandé, oui, pour Moshe, c'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de difficile. On a expliqué qu'on ne parlait pas de Moshe, du personnage qui nous a fait sortir d'Égypte et nous a transmis la Torah. On parlait de Prinat Moshe, Prinat Dat, ce que Moshe transmet à chacune de nos Neshamot, ce que nous avons chacun en nous. Alors par rapport à cela, ce n'est pas grand-chose. Par rapport à ce qui nous permet d'intégrer et de se sentir concerné par ce qu'on apprend. Le premier à nous transmettre Prinat Adat, ce dont on a beaucoup parlé la dernière fois, c'est Moshe Rabbeinu. Après lui, chaque rabbi, chaque maître du peuple juif, dans chaque génération, va assumer cette mission. Nous transmettre Prinat Adat. Cette transmission est assurée par les enseignements, que l'on soit du rabbi, mais aussi par son gouf venefesh. Comme l'Admor Hazaken va le dire tout de suite, on va le dire dans les mots, c'est-à-dire que le corps et tout ce qui gravite autour de lui, dans ce monde matériel, vont aussi nous transmettre cette prinat adat. Alors, je vais déjà le lire dans les mots. Ve od zot yeter al ken, encore plus. Chol dor vador yordin nitzotinu nishmat Moshe Rabbeinu alav shalom. Ce n'est pas seulement Moshe qui nous transmet prinat adat, la faculté de se sentir concerné par ce qu'on apprend par la présence de Dieu, mais tous les rebbeim, tous les maîtres dans chaque génération, ou mitlabshin begouv nefesh el charpe ador, qui va, l'étincelle de Moshe Rabbeinu va s'introduire dans le corps et l'âme des sages de chaque, dans chaque génération, qui sont appelés ene aeda, les yeux de la communauté, les yeux de l'assemblée, les lamed da'at et ta'am ve les dagdulat hachem, afin d'enseigner. Encore une fois, si on traduit, on passe complètement à côté. C'est pas d'enseigner la connaissance, mais d'apprendre date. Maintenant, nous savons ce que c'est que date. Cette faculté de se sentir concerné est à âme les dag d'oulat Hashem, de savoir, encore une fois. Ça veut dire d'intérioriser d'oulat Hashem, la grandeur de Dieu. Ou l'ovdo belev nefesh. Et ainsi de pouvoir le servir de tout son cœur, de toute son âme. Qui avodash belev, il est fiadat. Parce qu'on va servir Dieu à la hauteur de cet investissement. Il ne faut pas traduire de cette connaissance, mais à la façon dont on aura intégré, dont on aura intériorisé la connaissance de la grandeur de Dieu, la connaissance de la Torah, alors à ce moment-là, on sera en mesure d'aimer Dieu et de le craindre, comme Moshkatouv, comme dit le Pasouk, Da'at Elokei Avicha Ve'ovdehu Belev Shalem, connais le Dieu de ton Père, et alors tu pourras le servir d'un cœur sincère. Ça veut dire que dans chaque génération, il y a un rabbi qui assure la fonction de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire de nous transmettre Prinat Adat, de nous faire vivre Torah Mitzot, de nous amener à nous sentir concernés. Ça veut dire qu'un rabbi, c'est pas seulement quelqu'un qui veut nous enseigner la Torah. Pour cela, on a des Rashi Yeshivot, on a des Poskim, des grands maîtres de la Torah, des rabbanim en tout genre, qui vont nous enseigner la Torah. Le rabbi ne transmet pas qu'un enseignement. Il transmet un enseignement qui est chargé de divin, de Elokut. Apprendre, tu peux apprendre. Mais apprendre quelque chose qui sera chargé d'un contenu divin, ça c'est la particularité des rebbeim dans chaque génération. Il nous apporte Prinat Adat, la faculté d'intégrer ce qu'on apprend, de se sentir vraiment concerné. Le reste suivra naturellement. Je vais aimer Dieu, je vais le craindre, etc. C'est d'ailleurs pour cette raison que bien que de grands chassidim comme Rabbi Lelmi Paritch, Rabbi Tzrak Azik Meomil, dont on a déjà parlé plusieurs fois, eh bien ces grands chassidim ont eux aussi disserté, ont fait des dissertations de chassidou, des ma'amarim. Mais ces Mahamarim des grands chassidim ne sont pas tellement étudiés, même si leur contenu est tout à fait vrai. Mais ça reste simplement une très belle dissertation. Sur Atzilut, Keter et Insof, c'est très intéressant, mais c'est tout. Les Mahamarim des Rebbeim, c'est complètement différent. Ils ont un contenu divin, une charge divine, qui fera que le Mahamar va me parler davantage. Le Rav Yolkan donnait un exemple. Et lorsqu'on demande à quelqu'un de dessiner un portrait, eh bien, il y a deux façons de dessiner un portrait. Le peintre va pouvoir dessiner chaque trait de caractère, et il va tellement s'appliquer dans son travail que lorsqu'on va voir son œuvre terminée, on aura l'impression que celui qui est sur le tableau me regarde, et même lorsque je me déplace à droite ou à gauche, j'ai l'impression qu'il me fixe des yeux. C'est un regard qui se trouve dessiné, peint sur le tableau, mais qui en même temps est tellement vivant. Et puis un autre pourra dessiner un portrait, un peu de la même manière, mais de façon beaucoup moins vivante. Il va dessiner un grand rond, un grand cercle, une barre au milieu pour le nez, deux petits points pour les yeux, et un sourire, voilà, il va nous faire un smiley, On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait, il a aussi fait un portrait. Il y a aussi des yeux, un nez, une bouche et le contour du visage. Mais évidemment, c'est un visage qui ne parle pas, qui n'est pas vivant. Et c'est là la différence qu'il y a entre les Ma'amarim, des très grands chassidim, qui sont bien sûr très intéressants, mais qui n'ont absolument pas la charge vitale, la charge vivante des Ma'amarim que les Rebbeim nous ont donné, nous ont enseigné. Et puisque la chassidoute ne vient pas seulement nous donner des informations, qu'on puisse simplement en connaître davantage sur Dieu, sur les malachim, sur les olamot, mais pour que ça nous bouleverse à l'intérieur, que ça nous engage à aimer Dieu, à craindre Dieu, alors c'est pour cette raison que les ma'amarim des grands chassidim ne sont pas tellement étudiés. On va plutôt se focaliser sur les ma'amarim des rebbeim parce qu'on sait quelle charge divine ces ma'amarim possèdent. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que quand on répète une sikha ou un ma'amar du rabbi, mais il faut essayer de le rapporter tel quel, sans ajouter de petites notes personnelles. Parce que la sikha ou le ma'amar sont chargés d'une puissance qui est capable de nous faire ressentir les idées développées dans le ma'amar. Il y a une sikha où le rabbi demande comment ça se fait que lorsque Moshe Rabbeinu refuse au départ d'aller voir Paro, il explique à Kadosh Baruch Hu qu'il bégaye. Dans la paracha suivante, ça s'aggrave parce qu'il dit que Vani Aral Sfataim, je ne peux même plus parler. Et finalement, il va se retrouver devant Paro, il va pouvoir lui parler, ça va être très fluide. Je croyais qu'il bégayait, je croyais même qu'il pouvait même plus parler. En plus, il y a un autre problème, c'est que lorsqu'il s'adressait à Paro, il lui parlait en Lashon HaKodesh, une langue que Paro ne comprenait pas. Et dans ce cas, on peut se demander à quoi ça sert de parler à Paro en Lashon HaKodesh, alors qu'il ne comprend pas cette langue. De toute façon, Aaron va traduire en égyptien. Donc, autant laisser Aaron aller voir Paro, lui expliquer quel est l'avertissement d'Akadosh Baruch Hu, et Moshe, a priori, n'a pas besoin d'y aller. En réalité, le rabbi explique que tout ce qui s'est passé ici, c'est le résultat du guilouï, de la révélation de Dieu que reçoit Moshe. Au départ, il reçoit une certaine révélation de Dieu, et du coup, il panique. C'est ce qu'il fait bégayer. Ensuite, c'est encore plus fort. Et du coup, il n'est plus capable de sortir un seul mot. Après, comment il est capable de parler? Parce que c'est pas lui qui parle. C'est pas lui qui parle à Paro. Il est le porte-voix d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'alors il est capable de Moshe. Il est capable de parler, pardon. Il est capable de parler parce que Moshe est devenu simplement le Keli, le porte-voix d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque Moshe va parler à Paro, l'objectif c'est de le briser. Et comment ça va réussir? Parce que Moshe va transmettre telle quelle la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il devait répéter la parole d'Akadosh Baruch Hu, même si Paro ne la comprenait pas, sans la déformer, sans la modifier. Parce que la parole originale de Dieu qui est transmise par l'intermédiaire de Moshe sera en mesure de briser Paro. Et bien de la même manière, la Sikha le Ma'amar que le Rabbi nous donne, c'est la version originale. C'est celle qui sera en mesure de briser le Paro qui est en nous. Parce qu'elle est chargée de divin, parce qu'elle est chargée de Elokut. Parce que c'est vrai pour Moshe, mais c'est vrai pour chaque maître, dans chaque génération, chaque rabbi, dans chaque génération, transmet la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui va permettre de briser le paro qui est en nous, même si on ne comprend pas. C'est là toute l'importance d'écouter les fabringues du rabbi. Ça peut être sous-titré ou pas. On peut comprendre le yiddish ou pas. Mais entendre le rabbi va nous aider de toute façon. Ça sera positif. Ça aura un impact bénéfique au-delà de ce que l'on peut comprendre ou ne pas comprendre. Le seul fait d'écouter le rabbi parler pendant un fabringue, même si je comprends rien, je comprends quelques mots, un mot sur deux, sur quatre, peu importe. Mais en tout cas, ce sera bénéfique et positif. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu que j'entends. Et cela va briser le paro qui est en moi, le mal qui est en moi. Et donc, on comprend que le rabbi, c'est pas seulement un grand maître de la Torah avec beaucoup d'intelligence capable de faire de longs discours. Un chassid peut être instruit, intelligent, être capable d'associer ses idées comme les pièces d'un puzzle, faire une thèse, antithèse, synthèse, tout ce qu'on veut. Bref, il bricole. Un rabbi, c'est complètement différent. Le rabbi reçoit l'enseignement qui lui est transmis directement du Gan Eden. D'ailleurs, quand on écoute les audios du rabbi au début de l'année Siout, dans les premières années, on se rend compte que le rabbi parlait très très vite. Puis ensuite, une dizaine d'années plus tard, le rabbi ralentit un petit peu. Dans les lamed et les mêmes, le rythme ralentit encore un peu plus. Et au début, les chosrim avaient beaucoup de mal. Ceux qui devaient écouter et répéter les sirot et les mamarim du rabbi avaient beaucoup de mal à suivre le rabbi, tellement il parlait vite. Alors ils ont demandé au rabbi de ralentir un petit peu. Il a essayé, mais le rythme rapide revenait naturellement. Et les chosrim se sont plaints, ils n'y arrivaient plus, ils avaient du mal à suivre le rythme. Et le rabbi a dit un jour au rabbi Elkan, qui lui en a parlé, il lui a dit, tu sais, je transmets au même rythme que je le reçois. Ça veut dire que le rabbi ne donne pas un chiour qu'il a bien préparé après avoir étudié. Le rabbi transmet l'enseignement qu'il reçoit. Et c'est pour cela que son enseignement est chargé de kdusha, chargé de divin. Ce n'est pas comme une compilation, comme ferait un étudiant en fin de troisième cycle. Il va présenter sa thèse. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse plusieurs thèses, il en fait une petite compilation, et puis voilà. Un rabbi transmet les enseignements qu'il reçoit d'en haut, qu'il reçoit de Dieu. D'ailleurs, on dit tous les jours dans Kriyat Shema, Hayam Shamoat Ishmeu, si vous écoutez Mitzvotai, mes Mitzvot, qui est en train de parler? C'est Moshe. Que dit le pasuk ensuite? Venatati Esef Besatra, je vous donnerai la pluie dans vos champs, etc. Qui est encore en train de parler? C'est Moshe. Une seconde. Mais je croyais que c'était Dieu qui nous avait donné ces mitzvot, et c'est Dieu qui fait tomber la pluie. C'est qu'en réalité, Moshe s'identifie totalement à Kadosh Baruch Hu, le maître dans chaque génération. Il est complètement transparent par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est le porte-voix de Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Et donc c'est la même chose pour chaque rabbi dans chaque génération. Il n'est pas opaque, il est complètement transparent devant Kadosh Baruch Hu. Alors si on a compris que le rabbi, les enseignements du rabbi sont chargés de Gdusha, sont chargés de Elokut, du divin, mais l'Admor Hazaken a rajouté que c'était aussi valable pour son gouf, Venefesh, pas seulement pour sa Neshama, aussi pour son gouf, pour son corps et tout ce qui gravite autour de lui dans ce monde matériel. On raconte une histoire, l'histoire qui raconte la fuite de l'Admor Hazaken lorsque Bonaparte, Napoléon, voulait conquérir la Russie et il allait en direction de Liozna, où la demoiselle était peut-être à Liadi, je ne sais pas, de toute façon, c'est pas très loin, à Liozna ou à Liadi, et il a voulu quitter, il ne voulait pas rencontrer Napoléon, et avant de partir, il a demandé que l'on vide l'intégralité de la maison. Alors qu'ils étaient déjà partis, il a renvoyé un chliar pour vérifier qu'il n'y avait plus rien. Et le chliar a fini par trouver une petite paire de chaussures, de chaussons, peu importe, des pantoufles, qu'il a récupérées. Ensuite, on ne sait pas comment ça s'est déclaré, mais un incendie s'est déclaré et tout a brûlé. L'Admor Hazaken était déjà sur la route, et lorsque Napoléon est arrivé en ville, eh bien, il a envoyé quelqu'un tout de suite pour chercher dans sa maison. Est-ce qu'on peut trouver encore un objet qui aurait appartenu à l'Admor Hazaken? Pourquoi Napoléon cherche un objet qui aurait appartenu à l'Admor Hazaken? Qu'est-ce que ça peut faire si on trouve ses pantoufles ou autre chose? Mais que Napoléon était conscient que dans chaque élément matériel qui appartient au Rabbi se trouve un Nitzout, une étincelle divine, une étincelle de Gdusha, à partir de laquelle la Gdusha rayonne. Il était conscient qu'à travers ces objets naturels qui appartiennent à l'Admor Hazaken, il y avait moyen de l'atteindre, de lui faire du mal. Ça veut dire que l'étincelle de Moshe Rabbeinu, qui s'introduit dans chacun des tzadikim, dans chaque génération, chacun des rebbeim, dans chaque génération, s'introduit dans leur gouf venefesh, bien sûr benefesh, dans sa neshama. Mais pourquoi dans le gouf? Dans le gouf parce que, nous, on aurait pu dire, mais le gouffre n'importe, le corps n'apporte rien de plus, a priori. C'est la Neshama, quand même, qui vaut davantage. Pourtant, nous vivons dans un monde où nous sommes très sensibles à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on touche. Et c'est pour cette raison que la destruction du Beth Amikdash est vécue très difficilement. Même si on nous dit que Dieu se trouve maintenant près de nous, il se trouve dans les Arba Amot Shel Halakha, dans les quatre Amot de la Halakha, dans la Torah. Malgré tout, ça nous manque tout de même de voir les Korbanot, de vivre l'expérience d'une journée dans le Beth Amikdash. La sensation est importante pour nous. Et la Admor Hazaken explique donc que le Nitzus de Moshe s'introduit Begouf Venefesh. Ça veut dire que c'est pas seulement la Neshama du Rabbi qui est chargée de Gdusha, pas seulement ses enseignements, même son corps, tout ce qui gravite autour de son corps. Il y a un certain Rabbi Yaakov qui a vécu, il était jeune à l'époque du Baal Shem Tov, et il a vécu très longtemps. Un jour, quelqu'un a vu Rabbi Yaakov, qui semblait assez jeune, qui criait à quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que lui. Alors quelqu'un qui les a vus, il a dit, monsieur, jeune homme, excusez-moi, mais vous devriez pas parler comme ça sur ce ton-là à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous. Et Rabbi Yaakov lui a dit, mais j'ai le droit de lui parler comme ça, je dois lui parler comme ça, c'est mon fils. Alors il était très étonné parce qu'il avait l'air vraiment beaucoup plus jeune que son fils. Et il lui a expliqué que lorsqu'il était jeune, il avait perdu ses parents. Et c'est le Baal Shem Tov qui l'avait recueilli, qui l'a pris sous ses ailes. Et en même temps, lorsqu'il était chez lui, eh bien, c'est lui qui s'occupe un petit peu des petites tâches à faire à la maison, de donner un coup de balai par-ci, par-là, ou ce genre de choses. Très bien. Et un jour, le Baal Shem Tov était allongé sur son lit. Je ne vais pas dire qu'il faisait la sieste, parce que quand le Baal Shem Tov est allongé sur son lit, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il est en train de réaliser, mais en tout cas, on aurait eu l'impression de l'extérieur qu'il faisait la sieste, mais on est persuadé qu'il ne la faisait pas. Et il raconte, Rabbi Yaakov raconte, qu'il était en train de balayer. Il savait que le Baal Shem Tov, ça ne le dérangerait pas, donc il balayait dans la pièce, et puis il est arrivé devant ses chaussures, ou ses chaussons, deux versions dans cette histoire. Bref, qui était à côté de son lit. Et puis à un moment, il a pensé, je vais soulever les chaussures, balayer en dessous, et ensuite je les repose. Puis après, il s'est dit une seconde, qui je suis pour oser toucher les chaussures du Baal Shem Tov? Ça se fait pas. Je vais nettoyer autour, et puis c'est tout. Et puis finalement, c'est ce qu'il a fait, il a nettoyé autour, et il les a pas touchés. Quand le Baal Shem Tov s'est réveillé, si on peut dire qu'il s'est réveillé, s'est tout de suite adressé à lui, il lui a dit, tu as touché mes chaussures? Rabbi Yaakov lui a dit non. Il dit, mais tu as pensé toucher mes chaussures? Il dit, oui, effectivement, mais je ne l'ai pas fait. Alors le Baal Shem Tov a poussé un grand soupir, il lui a dit, vraiment, bravo, parce que tu as très bien fait de ne pas avoir touché mes chaussures, de ne pas les avoir déplacées, parce que sinon, Hatzilut se serait écroulé. Bon, nous, on n'a pas compris ce que ça veut dire, mais ça veut dire, on comprend dans cette histoire que même les chaussures du Baal Shem Tov, ça a l'air de rien des chaussures, c'est ça avec quoi on marche. Et pourtant, c'est chargé de Kdusha, c'est pénétré par la Kdusha. Autant, moins, plus, mais en tout cas, c'est pénétré de la Kdusha, comme les Mamarim, comme les Sirot, comme tout le reste. Alors, ce Rabbi Yaakov a écrit un livre ensuite qui s'appelle Amtachat Yaakov. Mais tout ça nous montre que la Kdusha n'intègre pas seulement la Neshama du Rabbi. Elle intègre aussi son corps, sa maison, son bureau. Tout ce qui gravite autour de son corps va être chargé de Kdusha. Et c'est dans cet esprit, pour ceux qui auront l'occasion de se rendre chez le Rabbi, de pouvoir rentrer dans son bureau, mettre la main sur sa poignée. Il faut imaginer, sur ce bureau, le Rabbi se tenait derrière ce bureau, il était assis sur cette chaise. Ce sont des objets, des murs qui sont pénétrés de Kdusha. La poignée de la porte sur laquelle il a dû mettre sa main, je ne sais pas si on l'a changé déjà depuis, mais en tout cas, un ensemble, un environnement qui n'est pas seulement une antiquité, un vestige de l'époque où le Rabbi se trouvait ici. C'est un endroit qui est chargé et pénétré de Kdusha. Alors c'est comme ça que fonctionne le récepteur qui transmet la parole de Dieu au Bnei Israël. Il est composé d'un Rabbi qui reçoit la parole de Dieu, un peu comme à l'époque du Mishkan. Il y avait un Mishkan, un Aaron, des Kruvim, Moshe qui reçoit la parole de Dieu et qui le transmet au Bnei Israël. C'est sur ce mode que tout fonctionne depuis l'époque du Mishkan et Oul Atid ou Omer. Et plus tard, lorsque Mashiach viendra, c'est écrit le Yilam du Ish et Rei ou les morts de Ouet Hashem. Plus personne n'aura besoin de dire les uns aux autres, connaissez Hashem un peu mieux, Kulam Yedouoti. Tout le monde me connaîtra. Ça veut dire que ce système récepteur qui transmet la parole de Dieu au Bnei Israël, qui était composé du Mishkan, du Aaron, des Kruvim et de Moshe Rabbeinu, bien il existe toujours. Il y a dans Écoutez du Bourim un long développement que fait le Rabbi précédent au sujet de Yirmiyahu Mibabroïsk. Et il raconte que son fils raconte, il avait seulement 6-7 ans, il raconte comment les chassidim, il a accompagné les chassidim qui se rendaient chez le Tzemar Tzedek, les Farbringen qu'il y avait sur la route. Il a assisté à ce voyage et le rabbi en parle très, très, très longuement. Et puis il s'arrête sur deux points. Pourquoi on appelle la rencontre d'un chassid avec son rabbi une yechidut, un entretien privé? Et pourquoi on danse quand on sort de la yechidut? Et son père lui a expliqué. Maintenant, nous n'avons plus de Mishkan, nous n'avons plus de Aaron, nous n'avons plus de Kruvim. Mais à l'époque, lorsque quelqu'un, le Kohen Gadol, pouvait rentrer à Yerushalayim, dans le Bet Amigdash, dans le Kodesh HaKodashim, il était seul là-bas. Et lorsqu'il sortait du Kodesh HaKodashim, après Yom Kippour, Beshalom, alors il faisait une grande fête. Eh bien nous maintenant, nous n'avons plus de Mishkan, nous n'avons plus de Aaron, plus de Kruvim. Mais Yerushalayim, il lui a dit, c'est Lubavitch, le Bet Amigdash. C'est le Bet HaKnesset du Rabbi. Le Kodesh HaKodashim, c'est son bureau. Et le Rabbi, c'est le Aaron et les Luchot. Et comme le Kohen Gadol rentrait seul dans le Kodesh HaKodashim, quand un chassid rentre dans le bureau du Rabbi, eh bien lui aussi il rentre seul, pour ça on appelle ça une Yechidut. Quand le Kohen Gadol sort Béchalom et qu'il danse après Yom Kippour, eh bien on fait aussi une grande fête lorsque quelqu'un sort du bureau du Rabbi. Ça veut dire qu'on comprend tout cela, qu'il y a de nombreux rabbanim, de nombreux tzadikim, de nombreux conférenciers de talent, mais un Rabbi, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un seul. Ce n'est pas qu'un grand rabbin ou un grand tzaddik. Il transmet la parole de Dieu de façon directe et c'est ce qui va nous toucher et va nous transmettre Da'at Belokut. Passez une bonne journée.